Avec Brice Cossu au Festival d'Angoulême sur l'Autre Monde, bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler de la série FRNCK, Franck ou Frongu, je ne sais pas comment vous voulez la présenter au niveau du nom.
J'accepte absolument toutes les propositions que tu viens de faire, puisqu'une personne n'a la même en l'occurrence. Moi je dis Frunk parce que voilà, c'est mon habitude, mais je laisse la créativité aux gens de le dire comme ils veulent. Et tu viens de résumer à peu près tout ce que j'ai pu entendre.
Donc le tome 6 vient de sortir, mais du coup, nous, comme on n'a pas eu l'occasion d'en parler avec un de ces méritants auteurs, on va te demander de résumer un petit peu la série.
Frunk, de quoi ça parle? Alors, Frunk, de son vrai nom, Franck, il n'y a pas trop de pièges, tout le monde l'aura compris. Alors c'est un jeune garçon de 12-13 ans qui vit dans un orphelinat en 2017. Et donc il est ballotté de famille en famille et malheureusement ça se passe jamais très bien. Et il finit toujours par revenir à l'orphelinat. Le tome 1 commence où une énième famille essaie de venir l'adopter, mais lui il a vraiment pas envie, c'est très bien comment ça se passe. Bref, un petit incident arrive, mais malgré tout, il pensait que ça dissuaderait la famille, mais la famille est quand même persuadée. Et il y a un mot de la directrice de l'orphelinat qui cafouille un peu et qui dit qu'apparemment ses parents ne seraient pas morts. On sait juste qu'ils ont disparu. Et là, des questions qui se posent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter encore une fois de s'échapper de l'orphelinat. C'est pas la première fois qu'il essaye. Il y a son pote, le jardinier de l'orphelinat, qui va le voir et qui va le soigner parce qu'il s'est blessé à la main en tombant dans la verrière, là où il y avait le rendez-vous avec les parents adoptifs, et qui va lui avouer quelque chose. Il va lui avouer que c'est lui qui l'a trouvé à une époque, et donc il va lui sortir tout le dossier avec les éléments. Il va lui donner un petit collier avec un coquillage, avec un petit gros lot à l'intérieur. Il dit « Mais tu l'avais sur toi quand je t'ai trouvé ?» Et il dit « Je t'ai trouvé à cet endroit-là. Donc si tu veux, vas-y, rends-toi-y, c'est le point de départ, tu verras, tu trouveras peut-être des indices. » Ce qu'il fait, et donc il se retrouve en plein milieu d'une forêt, dans un parc d'attractions en construction sur le thème de la préhistoire, là au niveau du chantier. Je fais un long résumé, hein, mais parce que c'est difficile en quelques mots. Et du coup, là, il se retrouve au niveau du chantier et forcément, il y a un chien de garde qui le pourchasse. Et donc, il finit à rentrer dans une grotte, à tomber dans un chariot, multiples chutes, rocambolesques, drôles, tout ce que vous voulez. Et il tombe dans un lac. Le problème, c'est qu'il ne sait pas nager. Et il coule au fond du lac. Et d'un seul coup, il se retrouve expulsé du lac. Donc, il rejoint la berge très vite. Il voit qu'il y a un truc qui est bizarre, qui est pas, et il se rend compte que en fait, il est revenu à la préhistoire. Et là, il se dit mince, qu'est-ce que je fais? Et il va se retrouver pris à partie par des hommes préhistoriques. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces hommes préhistoriques? Ils ont un petit problème. Ils connaissent pas les voyelles. Et donc, ça va être la communication peut-être un petit peu compliquée au début. Donc, il va, à partir de là, c'est le début de toutes ces aventures qui vont aller très très loin.
Alors, on a eu un premier cycle de 4 tomes. Là, on est en plein dans le deuxième cycle, normalement de 4 tomes aussi. Donc, on est au milieu puisqu'on est au tome 6. Et à chaque fois, on va avoir des délires complets, hein, faut le savoir. Pas de voyelles, c'était sympa, mais c'est vraiment pas le seul truc qu'on a à chaque album. Hein. On ne sait jamais à quoi on va s'attendre. Mais au fur et à mesure, là, on commence à se retrouver avec une accumulation de boucles temporelles qui rend le lecteur vraiment très intelligent. Est-ce que vous savez déjà, en tant que dessinateur, comment ça va se finir? Est-ce que le scénariste sait comment vont se boucler les boucles temporelles? Ou est-ce qu'on en rajoute à chaque fois?
Tu veux dire, où est-ce qu'on va? Et est-ce que, genre, on va au tome 30, on va être à la Moyen-Âge ou chez les cow-boys? Alors, non, soyons clairs. On a établi une timeline qui n'est pas si complexe que ça. C'est simplement que rien n'est laissé au hasard. Des indices sont laissés dans les albums qui vont trouver des explications aux albums d'après. En effet, au second cycle, on amène une galerie de personnages, une galerie de nouveaux personnages. Il ne va pas y en avoir beaucoup plus dans ce qu'on a prévu pour l'instant. Et en tout cas, on discute beaucoup avec Olivier. C'est pas uniquement le rapport, vous savez, où le scénariste écrit son scénario et après le file au dessinateur qui fait son taf et un peu après, peu importe. Avec Olivier, on discute beaucoup, on échange énormément. Depuis le début, on fonctionne comme ça. En même temps, on estime que c'est une relation saine de travail pour une bande dessinée quand il y a plusieurs acteurs comme ça. On sait où on va. C'est-à-dire qu'on a établi une fin qui nous plaît. Et on n'a pas encore acté un nombre d'albums précis, mais on s'est dit déjà 12 albums, ça pourrait le faire. Mais encore une fois, on se laisse aussi le temps d'avoir de nouvelles idées si on estime qu'elles ne sont pas juste pour faire durer la série, si elles ont une importance dans l'histoire et qu'elles serviront à notre propos quand on arrivera à la fin. Donc non, le but n'est pas d'étendre l'univers à l'infini avec des timelines à chaque tome avec l'intention de nouveaux personnages. C'est juste qu'on a une galerie qui est en train de se mettre et on va se focaliser sur tout ça. Après, j'en dis pas plus. Après, comme on a dit, c'est vrai que cette histoire de timeline et de flashback en tout début d'album, ça a été un pari qu'on a voulu faire. Nous, depuis le début, en fait, Frunk, on voulait pas juste uniquement que ce soit une série de gags d'un gamin qui se retrouve à la préhistoire et que soit en situation de danger à chaque fois. On s'était dit depuis le départ, nous, ce qui nous intéresse, c'est de raconter une vraie aventure. Et dans une vraie aventure, il n'y a pas que des chutes dans des plantes carnivores ou pourchassées par des animaux avec des défenses et autres joyeusetés. Frank va vivre une vraie aventure et va vraiment évoluer avec la série. C'est ce qu'on a commencé à mettre en place avec le deuxième cycle. C'est ça qu'on veut raconter, c'est une vraie aventure. Et c'est là où moi je fais le parallèle parce que moi, avec Frunk, je fais une série que je veux, le type de série que je veux faire depuis longtemps, parce que moi, j'ai un héritage manga assez fort. J'imagine que ça se voit, on me l'a déjà dit en tout cas. Et on retrouve une espèce d'aventure. J'ai dit, et même à Olivier, j'ai dit, tu es un scénariste manga qui s'ignore. Alors, on est dans du franco-belge, ne nous l'aurons pas. Mais on a des codes qui sont là avec une évolution de l'aventure. Et c'est vrai que des récits tout publics comme ça, nous, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas lu en franco-belge. Et on s'est dit, bon voilà, il y a eu l'enfeust, il y a eu ce genre de choses. Mais c'est vrai que on avait toujours une espèce de une cible, c'est-à-dire que ben, ça allait parler d'un thème en particulier, ou c'était plutôt genré, garçon, fille. Enfin, ça, voilà, c'est toujours des trucs un petit peu rébarbatifs. Mais c'est vrai qu'on a voulu créer la série tout public, tous âges, qui parle à tout le monde. Donc ça, on est très contents pour ça. Et c'est vrai que nous, notre but, en effet, c'est de faire cette évolution de la série. Et donc, le héros va grandir. On a induit aussi une notion de drame, une notion d'émotion qui a toujours été là. On a induit une notion de peur et un peu d'horreur aussi. Alors, sans partir dans des trucs complètement foufou, mais à partir du second cycle, voilà, on fait vraiment évoluer la série. Donc, en effet, elle se complexifie. Je mets les guillemets parce qu'on me voit pas, donc je le dis. Mais on reste quand même. Donc ça a été un vrai pari qu'on a voulu faire sur second cycle et on attendait fébrilement un peu le retour des lecteurs, mais il a été super. Là vraiment tout le monde nous a dit justement on casse les codes et on n'est pas sur quelque chose de convenu ou d'attendu. Et c'est bien parce que c'est vrai que maintenant il y a un degré d'exigence du public quand même qui est assez... parce que on voit quand même fleurir beaucoup de séries de qualité, soit dans la télévision, dans le dessin animé, dans la bande dessinée, dans les romans. Et c'est vrai qu'il y a une vraie attente. Le twist, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et c'est vrai que nous, on s'est dit qu'avec le second cycle, il faut qu'on fasse un twist à chaque fin de tome. Chose qu'on faisait moins sur le tome 1. Le tome 1, le twist final est au tome 4. Mais quand le tome 2 et 3 se terminaient, on avait la fin d'une aventure. Là, clairement, au second cycle, on finit pas l'histoire. On rebondit sur quelque chose qui va dire « Waouh, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Voilà, donc c'est la petite différence.
Ça marche effectivement pour les enfants et les adultes, parce que c'est vraiment une série qui est multiple, enfin, c'est vraiment ce qui se voit. Hein. Donc je confirme. Au niveau justement du dessin, il faut faire évoluer les personnages, parce que justement ils vont évoluer, enfin on va les voir les mêmes personnages à différents âges. Est-ce que c'est un challenge ? Est-ce que c'est sympa à faire ?
C'est absolument génial. Il faut savoir que travailler sur 12 albums, en moyenne, vous allez passer au moins 10 années de votre vie à dessiner la même série. Donc, il y a un vrai besoin de renouveau quand même. Enfin, c'est ce que j'estime. J'ai une grande admiration pour les gens qui font la même série depuis 30 ans avec les personnages qui restent exactement les mêmes. Type les tuniques bleues ou ce genre de choses. C'est super. Moi, je me sens incapable, j'ai besoin, parce que, comme j'ai dit, moi, je viens plus du manga en termes de lecture, même si, par la suite, quand j'étais jeune, je me suis intéressé vraiment à tous les genres et je continue de lire vraiment de tout. Moi, j'aime ce que j'aimais dans le manga. J'ai typiquement Dragon Ball, on a quoi ? On a un personnage qui, au début de l'histoire, a une dizaine d'années et qui, à la fin, en a 50 ans. Et avec tout ce que ça passe, avec une galerie de personnages en plus qui viennent, etc., c'est ça que je trouve génial. Après, ça peut prendre des chemins qui sont moins intéressants, peu importe. Mais en tout cas, la série évolue constamment. Et c'est ça pour moi une vraie aventure. Enfin, c'est ce que je considère comme une vraie aventure. C'est une aventure, c'est faire évoluer. Et c'est ce qui donne le sel pour moi. Donc dessiner Franck, faire évoluer Franck physiquement avec l'âge, si on décide de le faire grandir, au contraire, c'est génial parce que bah, il va prendre de la bouteille, son tempérament va changer. On a déjà amorcé le changement, pas tant physique, tout du moins sur la timeline de base, mais on a moins amorcé le changement physique que le changement moral. Le changement moral, il est clairement dans une situation de peur, panique sur les premiers tomes en disant qu'il en a marre d'être là. Et il y a un moment, un changement qui se fait où il vient dans l'action parce qu'il a décidé d'arrêter de se laisser faire. Et ça, psychologiquement, c'est hyper intéressant à travailler. Parce qu'au-delà du changement, c'est beaucoup plus subtil que le changement physique, c'est le changement d'attitude. Ça qui peut être intéressant. Il peut prendre de la maturité physiquement, mais c'est intéressant aussi d'essayer de faire mûrir le personnage dans sa façon de se comporter. Là, c'est le travail clairement du scénariste et du dessinateur, parce que ça joue par les dialogues, etc. Et c'est vrai que pour ça, Olivier est très fort, j'avoue. Donc non, au contraire, c'est hyper excitant d'envisager l'histoire comme ça.
Et du coup, au niveau de la création, alors je veux pas en trop en dévoiler, mais des créatures un peu différentes qu'on peut trouver dans les différents albums. C'est vous qui avez libre cours à la création, c'est vous deux, ou c'est déjà tout écrit, voilà, cette créature-là, elle va être comme ça, elle va avoir des dents comme ça, des yeux comme ça.
Et en fait, c'est un petit peu des deux, j'ai envie de te dire, parce qu'avec Olivier, on discute beaucoup. Hein. Donc, on discute, tu vois, il me dit, regarde, là, tu vas faire tel animal, j'aimerais bien qu'il ressemble à ça, mais après, t'es free. Moi, après, voilà, clairement, les animaux, c'est mon point faible. Donc, j'ai eu très peur quand j'ai commencé à travailler Frink, parce que c'est vrai que quand j'étais gamin, je dessinais que des personnages. Les personnages, je m'inquiète pas. Et les animaux, je me dis, bon, voilà, là, t'arrives dans une... Dans une histoire où tu vas dessiner des animaux préhistoriques à longueur de temps, ça va être compliqué. Mais bon, c'était très bien. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais pas m'embêter plus que ça. On n'est pas dans une préhistoire où on a vocation d'être didactique et absolument collé à ce qui a existé. Mais on cherche de la documentation. Et comme on est quand même dans une série relativement humoristique, rien ne nous empêche après de partir un petit peu en vrille sur détourner un animal et lui donner un petit côté cartoon. Voilà. C'est comme ça que j'ai envisagé tout le bestiaire de la série. C'est que je me suis dit, tu regardes des animaux qui ont réellement existé. Je pense notamment au tome 2. Il y a une espèce de castor géant qui les pourchasse. Cet animal a vraiment existé. J'ai vraiment trouvé une référence de ça, mais je lui ai donné un côté plus castor que le mammifère en question dont j'ai oublié le nom à rallonge. Donc, en effet, je fais un peu de recherche, mais comme ça. Et en même temps, je regarde un petit peu les théories qui sont faites, encore une fois, rapidement, sans rentrer dans le détail. Et je me dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça pour créer un truc un peu original? Par exemple, les oiseaux préhistoriques qu'on voit dans le premier cycle. Je me suis inspiré de ptérodactyles, mais je leur ai fait des plumes et j'ai fait des choses complètement fantaisistes, en fait. Voilà, parce qu'il faut pas se leurrer, on a la question de voyage dans le temps, on n'est pas du tout dans un truc voilà, comme je disais, une préhistoire qui a vocation de dire ah ouais, alors c'était vraiment comme ça à l'époque. Non, pas du tout. Pour ça, il faut aller dans les musées ou il faut lire les BD d'Emmanuel Roudier qui sont très bien.
Oui, c'est une préhistoire rock'n'roll. Alors justement, est-ce qu'il y a une bande-son qui serait préconisée?
Mais moi, je dirais un truc très tribal. Au contraire, je verrais pas de mélodie, je verrais beaucoup de tam-tam, quoi. Enfin, voilà, un truc très tribal. Non, clairement. En plus, moi qui, pour mon plaisir, joue un peu de batterie, j'adore les percussions. Au contraire, c'est très bien. Voilà. J'ai pas d'idées qui me viennent en tête de trucs existants, mais on est vraiment sur la percussion.
Est-ce que tu aurais un conseil de série actuelle ou d'album one shot actuel à conseiller à des lecteurs de Franck?
Ah, à des lecteurs de Franck, parce que là j'avais déjà une idée, mais je peux pas conseiller. Je ne vais pas vous conseiller le dernier Atlas, mais peu importe, dites à vos parents d'aller le prendre parce que c'est juste génial. Ouais, moi en fait c'est ce que j'ai dit, c'est que en fait je suis le travail de José Luis Munuera depuis très longtemps et j'adore ce qu'il a fait avec Zorglub. Donc Voilà, je vais rester très corporate, mais en effet, c'est très drôle et en même temps, il y a un humour qui plaira aux parents, c'est merveilleusement bien dessiné et ça donne un vrai charisme à un personnage qui l'était déjà. Il en a fait quelque chose, il en a fait, je trouve, un vrai héros qui prend ses distances par rapport à Spirou et voilà, c'est super.
Ça fait quoi d'être en dédicace à Angoulême avec un pull de Noël Jurassic Park?
Mais ça, c'était le petit happening qui n'était pas prévu, pas forcément prévu. Oui, parce que vous n'avez pas l'image, mais en effet, voilà, j'imagine qu'il va y avoir de l'image. En effet, j'ai le pull de Noël Jurassic Park, mais c'était à la base un délire que pour une soirée totalement qui n'a rien à voir avec la bande dessinée, qui s'est passée pendant les fêtes de Noël. Et c'est vrai qu'en me disant, ben là, je vais dédicacer quand même le tome 6 qui s'appelle Dinosaure. Est-ce que ce ne serait pas logique que je dédicace avec ce pull? Et en effet, ça a été bon coup marketing parce que clairement, ça a plu. Donc, je suis très content de mon plan marketing absolument pas du tout prévu. Mais voilà, ouais, c'est parfait.
Et du coup, il n'y a eu que des dinosaures en dédicace?
Non. J'ai encore des gens qui me demandent le héros, mais parce que le héros a une petite évolution physique. Très légère, mais il a une petite évolution physique au tome 6. Donc, non. J'en ai quand même eu deux. Après, encore une fois, quand on vous dit « faites un dinosaure », enfin « faites un dinosaure », on ne me dit jamais « faites un dinosaure », on me dit « est-ce que vous pouvez me faire un dinosaure ?» Bien sûr, ça ne marche pas comme ça. Si on me dit « faites un dinosaure », j'ai dit « c'est moi qui décide d'abord ». Voilà. Mais il y a toujours le petit truc de dire « oh bon, voilà, par rapport à, je rebondis par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ah oui, donc vas-y, dessine un animal. » Mais c'est comme quand on me demande un tigre à dents de sabre. Oui, bien sûr. Donc donnez-vous une contenance, poker face. Et on a, à l'intérieur, c'est la panique, mais après, sinon, ça va. En général, ils sont contents. Mais j'ai quand même fait attention. Et à force, j'ai quand même réussi à ce que ça ressemble à un tigre ou à ce que ça ressemble à un dinosaure.
Il y a une atmosphère particulière sur Angoulême par rapport aux autres festivals?
Bien sûr. En ce moment, j'imagine que vous avez tous entendu parler de ce qui se passe avec les auteurs. Puisque, voilà, donc ça fait énormément longtemps que ça dure. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a les états généraux qui ont montré à quel point les auteurs ont réellement du mal à vivre de leur métier. On est, comme on disait, à plus de 50% d'auteurs en dessous du SMIC et plus de 30% au-dessous du seuil de pauvreté et même des autrices qui sont à 50% en dessous du seuil de pauvreté. Donc, en plus, on distingue réellement un vrai problème entre autrice et auteur. Donc, ça, c'est une partie des gros problèmes. Et là, bien sûr, donc avec le rapport Racine qui devait arriver à la base après Angoulême, mais on a un collectif qui s'est ouvert, donc artistes, auteurs en action, aiguillés par la Ligue et par le SNAC, et aussi par les interventions d'autres auteurs qui ont permis de faire ça, comme Marion Montaigne, comme Jules, qui ont permis d'avancer, ce qui fait qu'on a pu avoir ce truc-là, qui est hyper intéressant, voilà. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, il va falloir que les choses avancent. C'est pour ça que ce collectif d'auteurs s'est monté. Et comme on dit, c'est l'année de la BD, c'est le moment. Donc Angoulême n'est que la première étape et maintenant toute l'année il va falloir entre guillemets que les choses avancent comme pour les auteurs, pour que la situation évolue, et toute l'année il y aura de toute façon des événements. C'est pas juste là on a Angoulême, les choses ont été faites, ça va clairement continuer tant que les choses n'évolueront pas, ça c'est clair, quoi qu'il arrive.
Cette année on va parler art culinaire, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on vous propose au choix de prendre une pizza avec les Tortues Ninja, un donut avec Homer Simpson, du lambas avec Legolas, de la bière au beurre avec Harry Potter, ou un origiri avec Goku. Vous prenez quoi?
Je vais pas hésiter. On dit cossu, mais c'est cossu. Donc mon choix va forcément se tourner vers la pizza parce que c'est dans mes gènes, quoi. Voilà, y a pas de problème. Puis les Tortues Ninja, j'étais fan et donc voilà, ce serait cool.
Un mot pour conclure.
Profitez bien d'Angoulême, discutez avec les auteurs, c'est important. Ça fera avancer parce que c'est important que le lectorat soit au courant de tout ce qui se passe. Continuez de lire des BD, soutenez les auteurs, soutenez les autrices. On espère que l'année de la BD sera vraiment l'année de la BD pour tout le monde.